Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est 4h58, nous sommes le mardi 26 mars 2019, une journée où j'ai décidé, à la grande surprise de beaucoup de mes collègues, de venir bosser en vélo. Oui, j'ai senti dans la rédaction d'Europe 1 pas mal de regards réprobateurs, l'air de dire « t'es encore un peu tôt dans la saison pour venir au travail en vélo ». Certaines remarques désobligeantes ont même visiblement été formulées à voix basse dans mon dos. Heureusement, Céline Dacosta a su remettre tout le monde à sa place par ses mots.
Bah, il fait ce qu'il veut, c'est le boss. Il peut venir en slip s'il veut.
Exactement. Si tel est mon bon plaisir, je peux parfaitement venir en slip. Bon, je comptais attendre pour cela la mi-juin, mais ma foi, pourquoi procrastiner? On en parlait hier avec la délicieuse Eva Rock. Justement, Eva, vous entendez en ce moment même l'un de ses titres. Savez-vous de quelle légende vivante nous fêtons aujourd'hui, 26 mars, l'anniversaire?
Rosine Bachelot.
Presque, Diana Ross. Upside down, you turn me. De haut en bas, tu me retournes. Des mots dont la poésie doivent vous toucher, ma chère Eva. Quelle question pour nos auditeurs ce matin?
D'abord, je suis outrée que vous me fassiez passer pour
Je sais que je peux dire n'importe quoi sur vos aventures sexuelles, vous en foutez. Mais en revanche, sur la musique, je sais que ça vous touche. Donc c'est pour ça que je me permets.
Allez, on rebondit sur l'anniversaire de Diana Ross. Quel est votre titre disco préféré? Quel artiste vous fait danser jusqu'au bout de la nuit ou jusqu'au bout du petit matin? Eh bien, vous nous répondez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
À vos côtés, avec elle, la météo atteint un niveau de précision inédit.
18 à Paris, 23 à Nîmes, 15 à Cherbourg. Et puis, il va faire beau. Non, voilà, j'ai pas suivi mon texte. C'est ça, en fait.
Bonjour, Céline Dacosta.
Bonjour, Mathieu. Bonjour, tout le monde.
Quel temps pour le pays aujourd'hui?
Ce sera assez ensoleillé dans l'ensemble. On aura quand même un petit peu plus de nuages sur le nord-est.
À chaque fois, j'ai l'impression qu'il va faire beau. Et à chaque fois, vous me dites qu'il y a des nuages.
Mais il va faire beau, sur tout l'ouest, toute la moitié sud.
Si on est dans un avion, il fait beau. Quoi.
Exactement. Puis on aura un peu plus éclairci sur la partie nord cet après-midi, voilà.
Merci, Jean
Tedam. Par contre, très mauvais temps en Corse.
Ah oui,
pour une fois.
Vous écoutez... Debout les copains, l'émission des fous rires les plus sincères, mais aussi des éditos politiques les plus engagés.
On ne plaisante pas avec le kiwi.
C'est parti, mon kiwi.
Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 mars. Merci d'avoir choisi Europe 1. Et très bon réveil à tous, il est 5h.
On note quand même, et c'est pour ça que je l'aime, et c'est pour ça qu'elle est avec moi chaque matin, Eva qui vient de dire c'est bien ça, derrière la vanne sur les kiwis. C'est parti mon kiwi. Et quand on est à ce degré-là d'acceptation, c'est vraiment de l'amour. Quoi. Merci beaucoup Eva. Le premier journal de ce mardi 26 mars, c'est avec vous Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
Les Bleus nous ont fait plaisir, probante victoire des champions du monde de foot face aux Islandais. 4-0 hier soir en éliminatoire de l'Euro 2020 dans un stade de France comble et comblé. Trois plaintes et une polémique. La famille de Geneviève Le Guay a déposé plainte hier à Nice. Les forces de l'ordre sont visées ainsi que le préfet. Le procureur avance lui que la septuagénaire blessée à la tête lors d'une manifestation interdite des Gilets jaunes n'a pas été touchée par les forces de sécurité. Et puis nouveau rebondissement sur le Brexit. Le Parlement britannique prend le contrôle du calendrier. Les députés ont voté hier un amendement leur permettant d'influer sur plusieurs sujets majeurs. Theresa May est encore un peu plus fragilisée.
Europe 1.
C'était bien, c'était bon, c'était bleu. Les Français, champions du monde de foot, ont assuré le spectacle hier soir en éliminatoire de l'Euro 2020. Victoire 4-0 face aux Islandais. Umtiti a marqué, tout comme chaque membre du Brelandas offensif. Giroud, Mbappé, Griezmann,
le Brelandas,
chacun. Ben oui. L'adversaire islandais, c'est vrai, était plutôt faible, mais il flottait comme un parfum de Coupe du Monde dans un stade de France garni de plus de 65 000 spectateurs.
C'était waouh! Il nous fascine à chaque match.
Ah, c'est magnifique, c'est génial. On s'est régalé vraiment toute la soirée, du début à la fin.
Tous les attaquants ont marqué, c'est vraiment, vraiment super, une belle fête.
Celui que vous avez préféré comme but?
Celui que j'ai préféré, c'est le but de Griezmann. Belle construction, un beau petit piqué comme il sait très bien faire. Super.
Ah oui, les buts sont beaux, mais la possession est ouf, c'est extraordinaire.
On est les meilleurs, c'est voilà. Tout.
Deux étoiles, c'est pas pour rien, et ça va continuer, voilà, on est qu'au début.
Hein, elle est pas belle la vie? 8-1 en deux matchs.
Ah, ça fait plaisir, ils ont fait football spectacle ce soir. Mais par contre, je voulais vous dire aussi que ça donne un bon exemple pour le football féminin, parce que là, il y a la Coupe du Monde chez nous. Hein. Et donc là, on y va les filles, hein.
Des propos recueillis par Cyril de la Morinerie. Les Bleus ce matin, premier de leur groupe de qualification. Prochain rendez-vous des éliminatoires le 8 juin en Turquie. On en reparle dans le journal des sports à l'issue de cette édition.
Europe 1, il est 5h02.
Geneviève Le Guay n'a pas été touchée par les forces de sécurité. C'est ce qu'affirme le procureur de la République de Nice, rendant compte des premiers éléments de l'enquête. Il s'agit de cette militante de 73 ans blessée à la tête samedi lors d'une charge de police. C'était en marge d'une manifestation des Gilets jaunes dans un périmètre interdit. Le procureur s'appuie notamment sur de la vidéosurveillance, des images sur lesquelles, dit-il, on ne voit pas qui pousse la septuagénaire. Hier, des plaintes contre la police et le préfet des Alpes-Maritimes ont été déposées par la famille. Geneviève Leguet est toujours à l'hôpital, mais va mieux. La Chine achète 300 Airbus, 290 A320, 10 A350, 35 milliards de dollars, prix catalogue. Méga accord commercial signé hier alors que Xi Jinping, le président chinois, est à Paris en visite officielle. Emmanuel Macron salue, je cite, « cet excellent signal de la force des échanges entre la Chine et la France ».
Une manifestation de forains dégénère au Mans.
La ville sartoise marquée depuis une semaine par un conflit entre forains et la municipalité. Le maire ne veut plus d'une fête foraine en ville et les patrons de manège refusent de se retrouver en périphérie. C'est moins rentable et il parle de discrimination. Hier, regain de violence lors de la manifestation au Mans pour Europe 1, Jean-Jacques Héry.
19h30 hier soir, les engins de voirie finissent de déblayer les restes d'une caravane brûlée. Ce rond-point proche de la mairie a été l'épicentre des affrontements entre forains et forces de l'ordre. Norman Bruch est le président du syndicat forain Sidunati. Pour lui, quitter le centre-ville a trop d'impact sur les revenus des forains.
Au moins 50%. On ne demande pas de subvention, on demande juste de travailler. Mais monsieur Le Foll, et bien lui, il fait tout le contraire.
Plus que les dégâts occasionnés, c'est le nombre de personnes présentes, entre 300 et 500, qui était impressionnant, raconte ce témoin.
Ils étaient énormément. Les forains avaient installé des barrières en béton en plein milieu de la route et ils bloquaient tout partout.
Les forains ont aussi empêché la circulation des trains en s'asseyant sur les voies ferrées, avant de bloquer l'autoroute A11 dans les deux sens. Des actions lourdement contrôlées. Condamné par Stéphane Le Foll, le maire de la ville.
Il y a des gens qui ont décidé d'aller jusqu'au bout dans une logique de la confrontation. La preuve, c'est qu'ils étaient venus avec des casques, des battes de baseball. On ne peut pas avoir comme préalable une action de cette violence-là.
Et les forains doivent à nouveau se réunir ce matin pour définir les actions qu'ils comptent mener dans la journée. Ils pourraient bénéficier de renforts venus de toute la France face à un dispositif de sécurité qui lui aussi devrait être renforcé. Le Mans, Jean-Jacques Héry, Europe 1.
Des fonctionnaires qui travaillent moins de 35 heures par semaine. Le Figaro dévoile ce matin un document de l'inspection générale des finances remis ce matin au ministre Gérald Darmanin. Sur plus d'un million de fonctionnaires audités, un tiers travaille moins que le seuil légal hebdomadaire. Ils bénéficient de toute une série d'avantages, parfois de longue date, leur permettant d'alléger les plannings. Theresa May humiliée, les unes outre-Manche sont dures ce matin pour la première ministre britannique. Hier soir, les députés ont voté un amendement leur permettant de prendre le contrôle du calendrier du Brexit. Ils pourront dès demain organiser une série de votes pour donner leur avis sur, par exemple, le maintien du Royaume-Uni dans le marché unique, un nouveau référendum, voire l'annulation de la sortie de l'UE. Et puis, Mathieu, l'histoire d'un bien peu banal tapage nocturne, le Berry républicain.
Ça commence, on dirait un reportage de Groland.
Le Berry républicain.
Je m'attends à voir Jules-Édouard Moustique.
Raconte Allez, cette Augustin intervention des policiers à Bourges, venus demander de baisser sa musique à un homme qui écoutait à fond
Iron Maiden.
Chantal Goya. Alors le journal ne précise
mais
pas quelle chanson.
Pas de... oui,
le choix est arbitraire.
Merci que j'en l'aurai dans la tête mais... toute la journée. Oh, oh, bon, merci.
Ah, tu es un chasseur. Tu es un réalisateur.
C'était un lapin. Qui c'était un lapin.
Vous venez de me menacer en simulant
Oui, enfin, on est dans le monde on est dans le monde enchanté de Chantal Goya.
Mais oui,
faux
mais
fusil,
mais
c'est un faux fusil.
Oh, si vous enchaînez pas, il va continuer, Philippe Amaré.
Il en a pas mal. Je crois qu'il est... C'était lui, en fait, Philippe Amaré. Il vit à Bourges tous les matins. Il fait le déplacement jusqu'à Paris. C'est pour ça qu'il se plaint d'avoir des horaires un petit peu trop décalés. Bon, on passe donc au journal des sports.
S'il vous plaît.
À la une. Un festival français.
Ah oui, festival de buts et plus de 64 500 spectateurs aux Anges au Stade de France. Les Bleus du foot champion du monde ont passé 4 buts aux Islandais en qualification pour l'Euro l'année prochaine. 4-0 alors dans l'ordre les buteurs. Umtiti, Giroud, Mbappé et Griezmann. Pour conclure, Griezmann servi sur cette action de but par une passe du talon de Kylian Mbappé.
On est en confiance donc ça aide beaucoup à tenter des passes un peu plus difficiles. Mais voilà, on est sur... le bon chemin, il nous reste encore beaucoup de matchs pour qu'il y ait l'objectif d'être premier. Première mi-temps, ils étaient bien regroupés, ils travaillaient bien défensivement, c'était difficile de trouver les espaces. Et après, avec la fatigue, évidemment, c'est plus facile.
Antoine Griezmann au micro Europe 1 de Cyril de la Morinerie. Les Français sont ce matin premiers du groupe de qualification. Quelques chiffres sur ce match. 8 buts inscrits en 2 rencontres de ces éliminatoires après le 4-1 en Moldavie vendredi. Le trio Giroud-Griezmann-Mbappé a inscrit 12 des 15 derniers buts des Bleus. Giroud qui est désormais ce matin seul 3e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France derrière Platini et Henry. qui est le meilleur avec 51 buts. Giroud, il en est à 35. C'est désormais un de plus que David Trezeguet. Prochain match des Bleus, le 2 juin à Nantes, en amical contre un adversaire encore à définir. Et prochaine rencontre des éliminatoires Turquie-France, le 8 juin.
Des matchs d'hier soir, on retiendra la contre-performance Céline du Portugal.
Et oui, un partout à domicile face aux Serbes. Et en plus, Cristiano Ronaldo est blessé, a quitté le terrain dès la première mi-temps. Par ailleurs, facile victoire de l'Angleterre, 5-1 au Monténégro. La natation, et ça y est, Florent Manaudou a pris la parole une semaine après l'annonce de son retour dans les bassins après près de 3 ans de pause. On n'en sait plus sur le planning de son retour à l'entraînement. Ce devrait être le 8 avril, en tout cas il l'espère. Manaudou inspiré dans son choix de revenir, notamment par l'Américain Anthony Ervin, champion olympique 2016, après 8 ans de coupure.
Ervin m'a montré à Rio que c'était possible de gagner à 35 ans. Je suis encore loin des 35, donc ça va. Mais bien sûr, maintenant, on est tellement pro en natation, on devient de plus en plus pro. C'est pas que on nage, on fait de la muscu, etc. On a besoin de récupérer, on a besoin de faire tout ça. Anthony l'a compris en 2016 et c'est pour ça aussi qu'il a gagné.
Des propos recueillis par Corinne Boulou et Manaudou qui va retrouver le Britannique James Gibson, l'entraîneur qu'il avait mené au titre olympique en 2012.
C'est couillu de revenir comme ça après tant d'années.
Si je l'aurais pas dit comme ça, ouais. Mais oui.
Moi je le dis comme ça, puis surtout qu'il y en a qui s'entraînent. Bon, moi je vais tous les jours à la piscine, donc je pense qu'il a un certain retard à combler là, pour revenir au niveau. Je dis courage mon grand.
Lui c'est un sprinter, vous êtes plus au travail de fond.
C'est pas faux, mon GG. Le chiffre du jour pour terminer.
10, elle était sur une série de 10 victoires d'affilée, la jeune joueuse de tennis canadienne Bianca Andreescu. Série terminée cette nuit en 8e de finale du tournoi de Miami. Elle a dû abandonner, blessée à une épaule. Par ailleurs, la Française Garcia a été éliminée en deux manches par la Tchèque Kvitova en 8e. J'ai vu la lueur d'espoir dans vos yeux.
Oui, non. Côté messieurs,
Federer s'est qualifié en battant le Serbe Krajinovic.
Bien évidemment. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.
Europe 1. Il est 5h09, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec la météo et le pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, qui n'en a jamais rêvé? Changer de vie, tentant, mais risqué. Certains ont pourtant franchi le pas. Europe 1 leur donne la parole chaque matin dans Fallait oser. Une chronique qui enthousiasme toujours Eva, parfois un peu trop. Hier, par exemple, nous évoquions l'histoire d'une femme devenue masseuse après avoir découvert l'art du massage avec son cousin. Eva, ayant l'esprit encore plus mal tourné que moi, ça l'a un peu déstabilisée.
Si vous aussi vous avez changé de métier, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Ça me fait rire cette histoire. Mais après, je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous risquez le fou rire aussi, pour d'autres raisons. A tout de suite.
Il est 5h10, Mathieu Noël.
Comme beaucoup de Français, Céline, j'ai envie de connaître le temps du jour pour savoir comment m'habiller aujourd'hui. Une journée globalement ensoleillée.
J'aime bien globalement.
Oui, bah globalement, voilà, comme ça, ça n'engage à rien. C'est vous ça. Êtes maligne, juridiquement, vous pensez à tout.
Bon, on aura quand même beaucoup de soleil hein, sur l'ouest du pays, toute la moitié sud. Là où ça va rester bien couvert et même pluvieux, c'est sur la Corse, je vous le disais tout à l'heure. Temps agité, vent soutenu. On aura même quelques flocons sur les sommets. Des nuages, on en aura aussi sur le nord-est. Et puis en descendant vers le centre-est ce matin, il y en aura un petit peu moins cet après-midi avec le retour de larges éclaircies, vous voyez, ça s'arrange. Le vent de nord, lui, sera toujours présent. L'ambiance restera donc un petit peu fraîche sur l'ensemble de la journée. On perd même 1 à 2 degrés par rapport à hier, mais on reste proche des valeurs de saison.
Eva Rock.
À l'occasion de l'anniversaire de Diana Ross, qui a 75 ans aujourd'hui, on vous demande depuis ce matin 5h, quel est votre titre disco préféré? Quel artiste vous fait danser jusqu'au bout de la nuit, Sébastien?
Born to be Alive.
Oui, ça n'a pas été encore cité pour l'instant.
Comment ça n'a pas
mais
encore
non,
été cité?
Sébastien nous a dit Upside Down de Diana Ross, évidemment, mais aussi Boney M, Chic, Abba, avec Paillette et Boule à Facettes, les Village People et Bee Gees, et puis ça.
Céline?
Okay. Earth, Wind & Fire.
Oui!
Bien joué!
Ah,
magnifique.
Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe, qui vous cajole, mais qui sait aussi vous booster quand il le faut. Par exemple, en vous incitant à changer de vie. Chaque matin vers 5h10, coup de projecteur sur des hommes et des femmes qui l'ont fait. Ce matin, je vous présente, attention Eva, Corinne Popo. Corinne a 51 ans, elle vit à Cazères sur Garonne, près de Toulouse. Elle était commerciale dans l'informatique, mais à 38 ans, elle a décidé de tout changer et de s'offrir une ferme. Aujourd'hui, elle produit des kiwis.
Fallait oser.
En fait d'avoir une ferme, donc j'ai repris les études et j'ai passé un BTS AXE, ça veut dire analyse et conduite des systèmes d'exploitation, et j'ai cherché une ferme que j'ai trouvée et je me suis donc installée à Cazères pour faire du kiwi.
kiwicultrice, c'est un pur hasard. Eh ben, les plantations étaient déjà, moi non plus, je l'apprends. Oui. Les plantations étaient déjà sur la ferme lorsque Corinne a acheté le terrain, mais elle adore travailler ce fruit. La France en est le 5e producteur mondial.
Oui, on en parlait hier avec Céline Dacosta dans notre pressing. C'est surtout le lien avec la nature qui plaît à Corinne. Elle s'épanouit vraiment au contact de ces arbres qu'elle traite avec beaucoup de respect et d'attention. C'est un métier fatigant.
Mais qu'est-ce qui est drôle, Eva, là ? C'est le kiwi qui vous fait rire ? Le petit kiwi ? Oui, c'est un métier fatigant, mais épanouissant.
Il faut savoir se faire aider, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail. Donc, il ne faut pas s'user non plus. Après, voilà, c'est quelque chose de ressourçant au quotidien. Et je pense qu'avec n'importe quel verger, ça peut l'être. Le lien que j'ai maintenant avec les arbres est fort. Ils savent me le rendre, et ils savent le rendre aussi tous les clients qui viennent cueillir les kiwis chaque année.
Corinne a pour projet de créer une sorte de pépinière d'entreprise agricole. Elle a encore quelques hectares non cultivés et elle voudrait aider les jeunes à se lancer sur son terrain.
Et si vous aussi vous avez changé de métier, vous pouvez nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1. Il est 5h14, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos badigeonnées d'une généreuse couche de fantaisie, histoire de démarrer la journée avec le sourire. À suivre, faut-il, au nom de la lutte contre le racisme, bannir un classique de la littérature dans les écoles ? Et Apple à l'assaut du juteux marché du streaming, à la une de Mardi les bons tuyaux, votre rubrique culture et high-tech. Sans oublier le point santé du docteur Ichou, et une étude le confirme, non seulement les boissons sucrées sont mauvaises pour la santé, mais elles feraient carrément baisser notre espérance de vie. Alors Eva, Céline, quelle est la solution ?
Ah, c'est le Beaujolais !
Mais oui, c'est le Beaujolais !
Non, c'est l'eau. Enfin bon, on va écouter un disque, ça fera du bien à tout le monde. Voilà Marc Lavoine avec cette chanson au titre Feel Good, Seul définitivement.
C'est ainsi que les jours défilent, c'est ainsi que la vie s'en va. Plus de mots et plus de possibles, plus de force dans les bras. Ni pour se prendre par la main, ni pour se soulever du sol. Devenu trop lourd le chagrin, c'est déjà la fin du chemin. Seul, définitivement, balayé par le vent. Secoué en tout temps, allongé sur un banc. Définitivement, un peu calme, un peu blanc. Encore un peu vivant, sans trop savoir comment. Sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir pour qui. Seul, définitivement. Seul, définitivement. C'est ainsi que les choses se meurent, c'est ainsi que l'amour s'éteint. Il brûle encore comme il demeure, brûle les lèvres et les mains. Hier est encore aujourd'hui, il durera aussi demain. Endoloris dans le foulard des parfums.
Seul, définitivement, c'était Marc Lavoine sur Europe 1.
Il est 5h17. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Le Parlement britannique prend le contrôle du calendrier du Brexit. Les députés ont adopté hier soir un amendement leur permettant d'organiser dès demain une série de votes. Ils pourraient ainsi donner leur avis sur, par exemple, le maintien du Royaume-Uni dans le marché unique, un nouveau référendum, voire l'annulation de la sortie de l'Union européenne. La première ministre Theresa May en ressort encore un peu plus affaiblie. La famille de Geneviève Le Guay a déposé plainte hier à Nice. Les forces de l'ordre sont visées, ainsi que le préfet. Le procureur avance lui que la septuagénaire, blessée à la tête lors d'une manifestation interdite des Gilets jaunes, n'a pas été touchée par les forces de sécurité. Enfin, le président chinois est en France et Airbus se frotte les mains. Pékin achète 290 A320 et 10 A350, accord commercial signé hier. Emmanuel Macron salue, je cite, cet excellent signal de la force des échanges entre la Chine et la France.
Europe 1.
Voici pour les titres de ce 26 mars, mais sur qui miser à Saint-Cloud ? Je n'en ai aucune idée, c'est une question que je préfère sous-traiter à un expert. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Saint-Cloud et mon pari gagnant sera le 101. Sayan, déjà vainqueur d'un quintet l'an dernier sur cette piste, il a ensuite connu des fortunes diverses, prenant le plus souvent la vie du bon côté. Néanmoins, son habile entraîneur Frédéric Rossi a su trouver les bons boutons avec lui afin qu'il puisse à nouveau s'employer. Muni désormais d'une paire d'œillères, ce qui a eu pour effet immédiat qu'il soit concerné par son job de cheval de course, le style de sa dernière victoire me laisse à penser qu'il devrait pouvoir sur sa lancée doubler la mise. Alors notez bien, pour cet après-midi à Saint-Cloud, réunion 1, dans la première course, le numéro 1, Sayan.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h18.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, et à l'heure d'ouvrir cette séquence toujours intimiste du pressing où tous les membres de la colloque DLC se retrouvent autour de la table du petit déjeuner, il me faut souligner ce matin l'impact considérable de la présence parmi nous depuis quelques jours de l'amant mexicain des Varocs. Chibro, c'est la version espagnole, Celebramos. Don Chibro, dont les rodéos en Renault Nevada commencent à agacer dans le quartier. Don Chibro, qui en outre, de par son charisme, fascine au-delà des Varocs. Céline Dacosta, troublée elle aussi, impose désormais à son GG de porter une moustache postiche lorsqu'il souhaite la rejoindre pour une pause gourmande. Moustache postiche qui, il faut l'admettre, va admirablement bien à GG, qui avec ressemble un peu au Sergent Garcia dans Zorro, ce qui lui permet à la pointe de l'épée. Bref, Céline est conquise. Ce soir, Jérôme mettra même une cape noire.
Oh là là, ça va encore me faire craquer.
Bref, tout va pour le mieux entre Céline et Jérôme, et nous n'en dirons pas plus car au-delà, ça serait intrusif pour leur intimité. Ah oui. Et ce n'est pas Céline, de nature extrêmement pudique, qui nous en dira plus.
J'ai testé une sonde pour muscler le périnée.
Alors, ni Jérôme d'ailleurs, garçon très discret lui aussi, qui a pourtant assisté Céline en lisant le mode d'emploi.
Insérer la sonde dans l'axe du corps.
Oui, on ne va pas savoir, on passe au pressing, ça c'est votre vie.
C'était
cool. Ah, je ne sais pas ce que c'est, mais on dirait presque que c'est vrai.
Mais oui.
Notre revue de presse en mode zapping, les amis. Parmi les unes de vos quotidiens, on retiendra celle du Parisien qui titre « Mariage des prêtres vers la fin du tabou ». Aucun lien avec les sons d'avant. Au sein de l'église, plusieurs voix s'élèvent pour réclamer la fin du célibat. Le Figaro a choisi pour sa part de regarder du côté des États-Unis, blanchi dans l'affaire russe, Trump renforcé pour 2020. Libé regarde vers la Chine et ce titre, habillant une photo d'Emmanuel Macron et son homologue chinois, c'est « Xi le patron ». Colossale rigolade. Et puis évidemment la une de l'équipe avec des bleus heureux et ce titre, la fête continue après la victoire, on en parlait avec Jérôme Lacroix, sur l'Islande hier soir, 4-0. Mais vous, mes incorrigibles galopins, qu'avez-vous trouvé dans la presse ce matin, Eva?
J'ai lu sur internet que les homos ont un chromosome en moins. Eh bien, c'est une des phrases qui a été prononcée par un élève de première d'un lycée parisien.
Mais c'est vous qui disiez ça.
Pas du tout. Et c'était il y a quelques jours, comme le raconte Libération ce matin, lors d'un atelier de prévention contre l'homophobie qui était mené par Nicolas et Michael, qui sont bénévoles de SOS Homophobie. Leur objectif, c'est de déconstruire les stéréotypes chez les adolescents. Et il y a du boulot. Il y a du boulot notamment pour faire reculer la haine qui ne semble pas faiblir. Entre janvier et septembre 2018, le nombre de plaintes pour des actes LGBT-phobes a augmenté de 15% par rapport à la même période de l'année précédente. Alors pas question d'asséner un cours magistral, hein. Nicolas et Maxime y jonglent avec les récits personnels, les notions de droit, de la pédagogie, un brin de discipline aussi. Mais surtout les bénévoles, ils ont choisi le mode du questionnement pour inciter les jeunes à parler. Alors la discussion débute avec la notion de discrimination dont certains, parfois, ont été victimes, et ils le reconnaissent lors de cet atelier, mais l'occasion de rappeler que les insultes sont punies par la loi et que « sale pédé », c'est une insulte et ça peut valoir une amende. Alors au fur et à mesure de l'atelier, la parole se libère et les propos font parfois froid dans le dos. Les gays seraient plus efféminés et se comporteraient comme des femmes. Un homme est censé être un homme. Deux lesbiennes, je ne vais pas les critiquer, mais enfin deux... Et cette impossibilité même de prononcer le mot de gay pour certains adolescents. Ou encore, ouais, ça me dégoûte. Si leurs parents avaient fait ça, ils ne seraient même pas là. Le silence, en revanche, se fait entendre quand Nicolas raconte son enfance à se sentir différent les années passées, à refouler ce qu'il était à cause des insultes qui le faisaient pleurer le soir. Donc les adolescents se sentent concernés, se sentent touchés. La discussion se termine sur une dernière question. Et si un de leurs amis leur confiait être homosexuel, comment ils réagiraient? Eh bien, les filles répondent souvent « je lui dirais de rester lui-même ». Du côté des garçons, c'est plus complexe. Tant qu'il n'est pas pédé, gay avec moi, ça va. Comme quoi, il y a encore du boulot, c'est une double page.
Mais c'est quelle tranche d'âge, ça ?
C'est des lycéens qui sont en première,
ah oui,
dans
bon
un lycée
même,
du 9e arrondissement de Paris.
Ah oui,
oui. Lycée Edgar Quinet, en l'occurrence. C'est une double page à lire dans Libération.
Mais que faire ? Mais peut-être au bout d'un moment, j'ai l'impression que quand on grandit, à un moment,
Sans doute, mais ça fait 15 ans que SOS Homophobie fait ses ateliers.
de prévention auprès des lycéens. Et c'est vrai que ça commence à apporter ses fruits, mais il faut beaucoup, beaucoup de temps.
Il faut du temps. Céline Dacosta.
Alors moi, je vais vous parler d'une info rigolote trouvée dans Aujourd'hui en France, où on apprend qu'à défaut d'avoir lieu un jour, ailleurs que dans un hall d'aéroport, le combat Boubacari aura eu le mérite de donner des idées à d'autres artistes, comme Jamel Debbouze, qui est en tournée actuellement avec son nouveau spectacle Maintenant ou Jamel. Il sera à Dunkerque ce dimanche. C'est aussi à ce moment-là que prendra fin le fameux carnaval de Dunkerque. Alors Jamel a lancé un défi à la toute nouvelle championne du monde de cri de la mouette. C'est pas elle, hein, c'est une vraie mouette. Hein.
Vous aviez dit. Très bien imité.
Elle s'appelle Justine Joseph, elle a 29 ans et elle participait pour la première fois à ce concours le 3 mars dernier. Elle a réussi à damer le pion à des vieux corsaires du cri de la mouette. Une victoire.
Elle a réussi à damer le pion à des vieux corsaires du cri de la mouette. C'est une phrase, mais qui a sa place dans les annales du surréalisme.
Oui. J'ai un petit peu pris dans l'article, hein, j'avoue. Une victoire dont elle doit bien se vanter dans son travail, on l'imagine, hein, parce que Justine est chargée de développer des projets artistiques dans la très sérieuse Université catholique de Lille. Depuis sa victoire, le CMCM, l'association organisatrice du championnat du monde du cri de la mouette, qui, comme pour les Miss France, suit sa championne pendant un an, a reçu plein de propositions d'interviews, d'invitations, mais ne s'attendait pas à la proposition de Jamel Debbouze, qui sur Facebook a posté une vidéo le 20 mars, où il fait part de son indignation quant au résultat du concours, estimant que le cri de Justine ressemble plus à celui d'une poule que d'une mouette. Ah ouais, non, ça va loin.
Je
pense qu'elle a été pistonnée ou qu'elle avait sûrement des cousins ou des cousines dans le jury. Et il rajoute, si j'avais été là, tu n'aurais pas gagné. Oui, complètement. Si tu es une mouette, viens. Elle a relevé le défi et elle sera sur scène avec lui pour le défi dimanche. C'est une initiative plutôt rigolote et maline de Jamel pour parler de son
plutôt
spectacle.
Cocasse.
Voilà. Et je vais reprendre la phrase de Justine qui termine l'article en disant « Comme je dis toujours, la vie est trop courte pour qu'on s'ennuie le dimanche, donc elle va y aller, c'est-à-dire dans Aujourd'hui en France. »
Et la prochaine fois, vous nous donnerez le son de Justine qui fait la mouette. Jérôme Lacroix.
Le Figaro consacre ce matin un portrait à une athlète dont le nom, si vous le connaissez, est synonyme de tellement de valeurs positive. C'est Marie-Amélie Le Fur.
Ah oui.
30 ans,
sport,
championne française de course à pied. Absolument. 8 médailles paralympiques, dont 3 en or sur 100 mètres, 200 mètres et saut en longueur. Il y a 15 ans, presque jour pour jour, hein, 31 mars 2004, elle avait 15 ans. Elle perd une partie de sa jambe gauche, amputée sous le genou après avoir été renversée par un scooter à Vendôme, son Loir-et-Cher natal. Elle rêve de devenir pompier, rêve abandonné. Mais bon, 15 ans plus tard, elle en a épousé un de pompier. Alors bon, mais elle dit qu'elle vit pas son rêve par procuration parce qu'elle connaissait son futur mari avant l'accident. Chacun doit vivre sa vie, c'est comme ça qu'elle philosophe. Et justement, sa vie d'aujourd'hui alors à Marie-Amélie Le Fur, bah c'est un double défi puisqu'elle prépare Tokyo, les JO l'année prochaine en tant qu'athlète, mais elle prépare aussi l'avenir de l'ensemble du paralympisme français parce qu'elle est depuis décembre présidente du comité paralympique et sportif français. Elle explique pour rendre ce que l'institution lui a donné, ce mouvement qui lui a permis de se reconstruire par le sport. Et voilà qu'aujourd'hui à Toulon, c'est le lancement de l'un de ses projets. La Relève, il s'appelle. Alors, c'est simple comme bonjour, mais ça n'avait jamais été fait avant. Première opération de détection de futurs champions, peut-être paralympiques. Voilà le message, dit Marie-Amélie
Le Fur. C'est nouveau.
Et ben oui, voilà, elle lance le projet. Même en situation de handicap, on a le droit d'avoir des rêves et de l'ambition. Et préparer l'avenir paralympique, c'est ô combien important en France parce que Paris 2024 et ces JO qui sont un super produit d'appel pour motiver les jeunes pousses prometteuses, mais qui peut-être s'entraîneraient qu'à moitié. Voilà, ça d'une part. Mais ça doit aussi permettre de combler un retard, celui de la France, sur les personnes en situation de handicap. Le poids de l'accessibilité et le regard de la société pèsent encore lourdement, dit Marie-Amélie Le Fur, sans toutefois verser dans le misérabilisme.
Très beau témoignage, merci beaucoup.
À lire dans le Figaro.
Dans le Figaro. Merci Jérôme, merci à tous. Les amis, le pressing referme ses portes. Et dites-moi Céline, et Eva m'a dit que Jérôme aussi avait essayé la sonde pour se muscler le périnée, c'est vrai?
Si, tu vas y arriver. Respire, shiatsu.
Ah, vous partagez vraiment tout. Hein. C'est beau.
Europe 1.
Ouais. Il est 5h27.
C'est dommage, vous alliez faire un commentaire anatomique, je pense, pour souligner le fait que mon son était incongru, mais je pense que ça aurait été encore plus intéressant.
On a frôlé le dérapage.
Ouais, on a frôlé le dérapage. Mais peut-être en antenne, nous droit à ce dérapage que je vous livrerai évidemment demain.
Eva m'a retenu. C'était sur le fil.
Debout les copains, continuent avec la météo, le journal d'Hélène Zélani. Époustouflant réveil à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1.
Il est 5h28, Mathieu Noël.
Ma chère Céline, et si nous faisions un point sur la météo de ce 26 mars, avec encore des nuages, décidément vous avez une passion pour les nuages, sur le nord-est.
Oui, ce matin c'est bien nuageux des Ardennes au Grand Est, en Bourgogne et puis en descendant jusqu'au nord de l'Auvergne, le tout parfois accompagné de brouillard. Ces brumes, elles débordent entre la pointe nord et l'Île-de-France et la région centre, sur tout l'ouest et plus au sud. Là par contre, ce sera déjà bien ensoleillé ce matin. On aura toujours un vent de nord bien frais, vent qui sera fort en Corse, hein, jusqu'à 110 km à l'heure sur les caps, avec là un temps bien agité, de la pluie et même de la neige sur les sommets des 800 mètres. Côté température ce matin, ça baisse encore un petit peu avec une moyenne de 2 à 9 degrés. Il en fait 3 à Brest, 6 à Paris, 9 à Nîmes. Ça grimpe quand même jusqu'à 14 degrés du côté de Toulon.
Et cet après-midi ?
Ça va rester très perturbé sur la Corse avec toujours beaucoup de vent. On aura encore des nuages présents sur le nord-est, mais partout ailleurs, le soleil brillera largement. Des nuages quand même de la Normandie à la Bourgogne et en Alsace, mais ce sera ciel bleu pour les autres. Côté thermomètre, ce sera sensiblement la même chose qu'hier, avec peut-être 1 ou 2 degrés en moins. 9 à 13 degrés, ce sera pour la moitié nord en moyenne, et puis 13 à 17 pour la moitié sud.
Merci beaucoup Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui aime se beurrer la biscotte. À suivre, faut-il bannir des écoles un classique de la littérature au nom de la lutte contre le racisme ? Et à quelle chaîne YouTube s'abonner pour être tendance ? Ou encore, à quoi va ressembler l'offre en streaming d'Apple pour concurrencer Netflix ? Toutes les réponses arrivent dans Mardi les bons tuyaux, l'actu culture et high-tech disséquée par nos experts. Et puis, un autre expert de la médecine, celui-là. Le docteur Ichou est un véritable ponte. Sérieux et exactitude sont ses maîtres mots.
Une étude américaine de... Non, américaine d'ailleurs, elle n'est pas américaine puisque c'est l'européenne review.
Ce matin, à la une du Point Santé, une étude vraiment américaine qui démontre que l'abus de boissons sucrées n'est pas sans conséquence sur notre espérance de vie.
Bienvenue sur Europe 1, il est 5h30. Mathieu Noël.
Toute l'actualité de ce 26 mars. Bonjour Hélène Zeleny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
Près d'un Français sur quatre boit trop d'alcool. Voilà donc le slogan de la campagne lancée ce matin. Pour votre santé, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. L'humiliation infligée à Theresa May. Les parlementaires ont voté hier soir un amendement qui leur permet de prendre le contrôle du Brexit. Et puis le foot, les Bleus sur leur lancée. Ils ont emballé le Stade de France hier soir en battant l'Islande 4-0 en éliminatoire de l'Euro 2020. On y revient, bien sûr, dans le journal des sports.
Europe 1.
Combien de verres puis-je boire sans me mettre en danger ? C'est à cette question que répond la nouvelle campagne d'information sur l'alcool que lance aujourd'hui le ministère de la Santé. Objectif, fixer des repères pour les Français, 8e plus gros buveur au monde, juste derrière les pays de l'Est. Plus de 10 millions de personnes boivent trop. Et bien peu savent ce que veut dire une consommation modérée. Ève Roger.
Quand vous interrogez les Français sur le nombre de verres maximum recommandés par jour, eh bien c'est le grand flou.
Je sais que c'est à peu près recommandé de boire un verre de vin rouge par jour. Pas plus, je pense.
Je pense pas que ce soit mauvais, parce qu'il paraît que même dans les maisons de retraite, on fait boire aux pensionnaires un verre de vin par jour ou une coupe de champagne, parce qu'il paraît que c'est bon pour la santé. Donc.
Ouais, c'est 2 à 3 verres, je crois, pour les hommes, et pour les femmes, c'est moins.
Rien de tout cela. La nouvelle règle, traduite en slogan publicitaire, ça donne...
Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum 2 verres par jour, et pas tous les jours.
Et si l'on dépasse, eh bien on prend des risques pour sa santé. Alors tout le monde peut citer les accidents de voiture ou la cirrhose. La campagne, elle, insiste sur les risques moins connus, version film dramatique.
Ceci est une publicité contre les ravages de l'alcool. Au-delà de 2 verres par jour, vous augmentez vos risques d'hémorragie cérébrale, de cancer et d'hypertension.
Et ce qui peut paraître étonnant, c'est que seulement 25% des adultes sont hors des clous. Ça fait quand même 10 millions de Français. Les plus jeunes, parce qu'ils boivent souvent plus de 2 verres par occasion. Les plus vieux, parce qu'ils boivent tous les jours, sans jamais faire de pause.
Ève Roger. Une avancée importante et un excellent signal de la force des échanges entre la Chine et la France. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron salue la vente de 290 Airbus A320 et 10 A350 pour un montant estimé à 35 milliards de dollars. D'autres accords ont été signés hier pour une dizaine de milliards de dollars, comme la construction d'un champ d'éoliennes en mer par EDF. Aujourd'hui, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, retrouvent Emmanuel Macron à Paris pour une rencontre avec le président chinois à l'Élysée. Il s'agit de montrer une ligne politique européenne claire face à Pékin. Et puis 16 000 voyageurs touchés hier. Le trafic des TGV entre Paris et le sud-ouest a été interrompu à cause d'une manifestation en gare de Vendôme dans le Loir-et-Cher. Les salariés du papetier Arjo Wiggins, menacés de liquidation judiciaire, voulaient se faire entendre alors qu'aujourd'hui le tribunal doit trancher sur les offres de reprise.
Alors, il est 5h32.
Nathalie Loiseau devrait devenir la tête de liste de La République En Marche pour les européennes du 26 mai prochain.
Oui, elle s'apprête à quitter son poste de secrétaire d'État aux affaires européennes et sa nomination devrait être officialisée dans la journée, en même temps que le reste de la liste du parti présidentiel, Adrien Beck.
Comme un contre-pied aux autres partis qui ont choisi de jeunes têtes de liste, La République En Marche entend miser sur l'expérience. Nathalie Loiseau, diplomate, ancienne directrice de l'ENA, issue du centre droit, portera la liste. La ministre des Affaires européennes a le profil parfait, à en croire un membre du gouvernement. L'ambiance en Europe est anxiogène, il faut quelqu'un qui sache naviguer. D'autant que Nathalie Loiseau, issue de la société civile, est rentrée dans le combat politique. Elle sait parler d'autre chose que de Bruxelles, salue un proche d'Édouard Philippe. Prime à l'expérience, donc, y compris sur le reste de la liste, qui se veut ouverte du centre droit aux écologistes, avec notamment l'ancien ministre et ancien eurodéputé vert Pascal Canfin, sans oublier le MoDem de François Bayrou. Avec un tel casting, un poids lourd d'En Marche espère, c'est jouable d'être devant le Rassemblement national. Ce serait triste qu'on n'y arrive pas.
Adrien Beck. Et ce matin dans le Figaro, Nathalie Loiseau affirme que battre le Rassemblement national serait une première victoire. Elle explique qu'elle ne peut pas continuer à vivre avec le parti de Marine Le Pen, premier parti de France au Parlement européen. Et justement, selon le sondage BVA pour Europe 1, l'écart se resserre entre La République En Marche et le Rassemblement national aux européennes. 24% contre 21% avec quand même 49% d'indécis.
Pendant ce temps-là, à Londres, Theresa May vient d'encaisser un nouveau énorme canouflet,
un de
plus.
Les députés ont adopté un amendement qui leur permet de prendre la main sur le Brexit. Ils pourront organiser demain une série de votes sur le maintien dans le marché unique, sur un nouveau référendum et même sur une annulation de la sortie de l'Union. Trois secrétaires d'État ont annoncé leur démission pour pouvoir voter cet amendement. Et puis aussi incroyable que cela puisse paraître, la NASA a annulé la sortie dans l'espace de deux femmes astronautes prévues vendredi. Il n'y avait pas assez de combinaisons en taille M à bord de la Station Spatiale Internationale. Cette sortie sans 100% féminine devait être une première de l'histoire.
Ça paraît tellement dingue, on a vraiment bien vérifié cette information, c'est incroyable. Ça
paraît. Ils partent sans combinaison dans l'espace.
Ils n'en avaient pas assez.
Ils n'avaient pas la bonne taille. Il y en a un qui a trop maigri, qui a pris la combinaison d'une femme. Je vois pas d'autre solution.
Ah, intéressante théorie. C'était le journal d'Hélène Zellani, journaliste irréprochable et femme irrésistible. Pour le cœur de laquelle nous sommes nombreux en interne à nous battre, même si hier, avec mon nouveau sweat vert, je crois avoir définitivement distancé Nikos Eliagas, mon principal rival dans le cœur d'Hélène.
Le sweatshirt vert a sorti à tes yeux.
Ça te plaît, Hélène ?
Là, je dois dire...
Oui, l'Eliagas a mordu la poussière. Hypnotisée par Bibi, Hélène ira même jusqu'à oublier son nom. Quand, enlacée à la proue du voilier que nous louerons l'été prochain, je lui parlerai de Nikos Eliagas, elle me dira...
Le mec qui dansait le sirtaki.
Ouais. Tiens, Hélène, je me disais qu'il nous manquait quelqu'un pour tenir la chandelle. Voici Jérôme Lacroix pour le journal des sports.
Tout ce qui se passe.
Des frissons au Stade de France.
Oui, des frissons parce que les Bleus du foot ont fait le job, comme l'on dit, assumant leur statut de champion du monde face aux Islandais hier soir. Succès 4-0 en éliminatoire de l'Euro 2020, trois jours après déjà. 4 buts inscrits en Moldavie et 2 sur 2 pour les tricolores en ce début de campagne qualificative. Hier soir, Umtiti, Giroud, Mbappé et Griezmann ont marqué, mais le frisson, il a aussi par deux fois traversé les Chines des 65 000 spectateurs. Ces deux fois où Benjamin Pavard, le défenseur, a tenté deux frappes, quasiment les copies conformes de son missile envoyé contre l'Argentine en huitième de finale du dernier mondial. Hier soir, c'est passé à côté, mais Pavard, il a dit après le match, les spectateurs ont envie que j'en refasse une. Au-delà de son cas personnel, Pavard était surtout satisfait de la bonne marche de la troupe bleue.
Ces deux matchs, on voulait les gagner. Voilà, c'est chose faite. On a fait le boulot. On a vu qu'on était une équipe soudée, qu'on défendait tous ensemble, on attaquait tous ensemble. Et c'est ça notre force.
Giroud qui a marqué devient ce matin seul troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus derrière Henri et Platini. Giroud dépasse Trezeguet ce matin avec désormais 35 buts inscrits. Ce sont donc des Français premiers de leur groupe qui se rendront le 8 juin en Turquie. Prochain rendez-vous de ces éliminatoires. Avant, il y aura le 2 juin un match amical à Nantes contre un adversaire encore à définir.
Martin Fourcade possède désormais son double de cire.
Oui, le Catalan l'a découvert hier soir. Il est premier biathlète à entrer au musée Grévin et paradoxalement, ça intervient à l'issue d'un hiver noir pour Fourcade. Aucune médaille, hiver qualifié de parenthèse par l'intéressé, bien loin de le stopper à 30 ans. Martin Fourcade, c'est un champion. L'échec lui donne surtout l'envie de revenir plus fort.
Forcément des courses où on a envie de tout envoyer bouler. À aucun moment j'ai pensé à,
à arrêter ma saison, comme à aucun moment j'ai pensé que ça pouvait être la saison de trop. J'ai envie de partir en vacances avec mes deux petites filles et ma compagne et voilà, de tirer une croix définitive sur cette saison. J'ai envie de profiter de ce break et d'arriver à vraiment débrancher avec l'objectif de pouvoir repartir quand même.
Des propos recueillis par Corinne Boulou.
On termine, Jérôme, avec la personnalité du jour.
J'ai choisi Johan Ofredo, cycliste français qui a lourdement chuté dimanche sur des pavés lors du Grand Prix de Denain. Ça se passait dans le Nord. Les images étaient impressionnantes et après des heures de forte inquiétude, le bilan médical d'hier au CHU de Lille est plutôt rassurant. Aucune anomalie aux radios. Toutefois, le choc a provoqué une tétraplégie et un mutisme. Mais tout cela est provisoire, disent les médecins. La situation, pour l'heure, évolue bien.
Merci pour ces informations, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et ce matin, je tiens à répondre aux demandes parfois vraiment farfelues que certains auditeurs m'envoient. Alors oui, c'est vrai, j'avais réussi une fois à faire chanter Belinda à Gégé grâce à un montage complètement tiré par les cheveux. Mais non, franchement, lui faire chanter Cool and the Gang, je vois pas par quel montage, non, à moins que...
Exoneration.
Ça, c'était peut-être encore plus tiré par les cheveux.
Vraiment.
Mais pourquoi pas ? J'ai réussi quand même.
C'est un peu moins
J'ai réussi quand même.
Il est 5h39, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui pratique alternativement l'info et l'humour, le journalisme et le divertissement. Bref, qui se joue de toutes les contradictions, à l'instar de Céline Dacosta.
Ah oui, attention, c'est la météo longue, mais il faut la faire courte.
À suivre, votre point santé. Vous saviez déjà que les boissons sucrées étaient mauvaises pour la santé. Vous n'imaginiez pas à quel point une étude vient de tomber. Consommer des boissons trop sucrées réduirait carrément votre espérance de vie. Alors que faire, Céline ?
Au Portugal, tu sais ce qu'ils font ?
Non, mais le docteur Michou vous l'a déjà dit, Céline, le Porto n'est pas une solution.
Il est 5h41, Mathieu Noël.
Céline, on fait un point sur la météo du jour avec, hélas, encore des nuages.
Oui, c'est vrai, encore des nuages. Ils sont bien présents ce matin du nord-est au centre-est avec quelques brumes qui peuvent déborder sur le nord, l'Île-de-France et la région centre. C'est couvert et pluvieux et bien venteux. Ça va le rester d'ailleurs toute la journée sur la Corse. Partout ailleurs, ciel bleu et soleil. On aura encore du vent aujourd'hui, surtout près de la Méditerranée, dans la vallée du Rhône. Les éclaircies, ça c'est la bonne nouvelle, reviendront largement cet après-midi sur le nord-est. Quant aux températures, la moyenne cet après-midi ira de 9 à 13 degrés pour la moitié nord et de 13 à 17 pour la moitié sud.
Merci Céline Evaroc.
C'est l'anniversaire de Diana Ross aujourd'hui, 75 ans. Alors quel est votre titre disco préféré ? Quel artiste vous fait danser jusqu'au bout de la nuit ? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter depuis ce matin, 5h. Eh bien, vous êtes nombreux à nous avoir répondu, je vais vous le dire après, en bas rugir. Claire, Jérémy ou encore Sandra, c'est ça.
Le bon vieux Barry.
J'adore cette chanson.
C'est-à-dire, vous l'écoutez dans quelles circonstances ?
Bah pas comme vous,
en cuisinant.
Qu'est-ce que ça signifie ?
Vous savez très
bien. Moi, j'écoute en cuisinant.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Ouais, en découpant des rondelles de saucisson. Ouais. Tuk tuk tuk, la de musique play. Mais oui, chacun
son truc. Continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
C'est l'heure de notre rubrique santé. Bonjour Marcel Ichoux.
Bonjour Mathieu.
À l'occasion du congrès francophone sur le diabète qui se tient aujourd'hui à Marseille, on s'interroge sur l'impact des sodas et boissons sucrées sur notre santé. Alors on savait déjà que c'était pas très bon pour la santé, mais en plus elle réduirait carrément l'espérance de vie.
Oui, cette étude menée par l'hôpital de Boston et une université chinoise montre que les personnes qui boivent en grande quantité des sodas et des boissons contenant du sucre ajouté auraient un risque de décès précoce accru, toutes causes confondues. L'augmentation du risque est de 20% pour les personnes qui boivent quotidiennement au moins deux boissons sucrées. Ce phénomène est encore plus élevé chez les femmes, pour des raisons qu'on ignore, mais dû probablement à leur métabolisme particulier. Et il est probable que les décès soient dus à des pathologies cardiovasculaires, mais pas seulement.
Et quel rapport y a-t-il entre la consommation de boissons sucrées et le diabète ?
L'organisme assimile le sucre grâce à une hormone sécrétée par le pancréas, l'insuline, qui fait passer le sucre de la circulation sanguine vers l'intérieur des cellules pour leurs besoins énergétiques. Mais si ces besoins sont dépassés, le système lui-même s'épuise et le diabète apparaît par une augmentation chronique du taux de sucre dans le sang. Si on a le temps, où est-ce qu'on trouve du sucre, mes chers amis ?
Dans tout, même dans les pâtes, par exemple, les sucres lents.
Je vais vous faire une liste à la Prévert. Le sucre, le miel, les confitures, les bonbons, les pâtisseries, les fruits, barres chocolatées, les aliments avec 0% de matière grasse, les sauces toutes prêtes, le pain de mie, les pâtes, le riz et les pommes de terre.
qu'est-ce qu'on mange alors, Mathieu ?
On n'entend plus rien. Et quand on dit 5 fruits et légumes par jour, alors du coup, il vaut mieux manger 4 légumes et un fruit plutôt que comme une.
Exactement, 5 fruits et légumes par jour.
L'expression est un peu abusive.
Exactement.
Merci Marcel Hichon, on se retrouve demain, 5h40.
Europe 1. Il est 5h44, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures où le journalisme le plus exigeant cohabite avec la gaudriole la plus décomplexée, délicat mélange des genres, comme je l'ai constaté à mes dépens l'autre jour au détour d'une info sur Marvin Gaye.
Marvin Gaye, prince de la soul ressuscité, figurez-vous que son album You Are the Man, perdu et retrouvé, est désormais disponible.
Vous voulez dire que je vais pouvoir changer les 2 chansons de Marvin Gaye que je mets toujours pour illustrer quelque chose de sexuel ?
Sauf qu'elles sont pas sexuelles et vous allez comprendre pourquoi.
Ça m'étonne avec Marvin.
Quand on sait que l'artiste a été assassiné par son père en 1983.
Oh la vache, ah oui. Ah oui, merde. À suivre. Mardi, les bons tuyaux, tous les conseils culture et nouvelles technologies de nos experts. On vous dira tout, notamment du nouveau service de streaming d'Apple qui veut aller chasser sur les terres de Netflix. Juste avant, comme je vous sais mélomane, une petite parenthèse musicale. Voici Dean Lewis, Be Alright sur Europe 1. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold, you pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk. To look back at all the messages you'd sent, and I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past, yeah, it was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday, it's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away, but I just wanna stay. And my friend said, I know you love her but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. Nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love her but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go. C'était Dean Lewis, une chanson qui a beaucoup ému tous les gens présents dans ce studio. Be Alright sur Europe 1.
Il est 5h47. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Une visite fructueuse. Le président chinois est en France et Airbus se frotte les mains. Pékin achète 290 à 320 et 10 à 350. Accord commercial signé hier. Emmanuel Macron salue, je cite, cet excellent signal de la force des échanges entre la Chine et la France. Près d'un quart des Français boit trop d'alcool, soit environ 10,5 millions de personnes selon Santé publique France. L'agence sanitaire lance aujourd'hui une campagne avec ce slogan « Maximum 2 verres par jour et pas tous les jours ». Enfin, les Bleus du foot s'imposent et font le spectacle. Victoire 4-0 hier soir au Stade de France face à l'Islande. Deuxième succès en 2 matchs de qualification pour l'Euro l'année prochaine.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 26 mars. Et tout de suite, nous ouvrons la page des pronostics hippiques. Alors, faire du cheval, c'est formidable. Mais trop monter peut aussi s'avérer dangereux. C'était pas là la vanne, Edeva. Comme nous le faisait à juste titre remarquer le docteur Ichou, le trop est une allure déconseillée d'un point de vue médical. On peut même finir
sans organes génitaux.
Mieux vaut donc aller au galop avec José Cobès. Bonjour José.
Oh, j'ai eu peur. Oui, bonjour les enfants. Je vous emmène à Saint-Cloud cet après-midi au départ du prix du Languedoc, qui sont 16% dans cette première course sur 2000 mètres. J'ai d'abord choisi le numéro 4, Giselita. Toujours dans les 5 premiers, c'est une favorite très crédible. Le 7, Banouche, a prouvé dans cette catégorie qu'il avait la taille patron. Numéro 16, Folle Passion, deux fois deuxième à ce niveau, doit finir au premier rang. De même d'ailleurs que son compagnon d'entraînement, le 8, Breath of Fire, dont le potentiel est bien réel. Quant au numéro 2, Girosa, il va galoper sur sa piste de prédilection. Trois autres possibilités, le 15, Zillionson, tous les feux sont au vert. La course de rentrée du 6, Ilbio, est à prendre très au sérieux. Et enfin, le numéro 1, Sayan. Il vient de se balader, en revanche, dans ce handicap. Son poids n'est pas un cadeau. Voici donc mon ticket pour cette première course vers 13h45. D'abord le 4, le 7, le 16, le 8 et le 2. Et ensuite, le 15, le 6 et l'As.
À vous entendre, Giselita, le 4 est toujours à l'arrivée. C'est donc le bon pari.
Elle possède cette qualité rare chez un pur sang, elle donne toujours le meilleur d'elle-même et comme elle a déjà gagné sur cette piste, Mathieu, bien vu, mieux vaut parier sur ce numéro 4, Giselita.
Mais vous avez vu, je commence à m'y connaître, José, merci beaucoup.
Il est 5h49. Europe 1, 5h, 7h,
Mathieu Noël. Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici mardi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Clément Le Saffre pour les nouvelles technologies et pour la littérature, ce garçon que d'aucuns qualifient d'étrange mais que pour ma part je préfère décrire comme différent. Bien sûr, je sais les légendes urbaines qui circulent sur lui.
Pas joli, joli, a priori.
Je sais aussi que, selon plusieurs études, les serial killers portent des chemises anthracites sous des vestes noires, qui sont de nature égocentrique.
Ils toussent pendant mon show.
Et colérique.
Et il faut que ça cesse, c'est la chienlit.
Pourtant, je me refuse à croire que Nicolas Caro, notre expert littérature, soit un mauvais bougre. Eva, qui est son amie depuis 7 ans maintenant, pourrait certainement en témoigner.
Je la filme beaucoup aussi, je stocke tout ça sur des disques durs externes. Ah oui. Je le fais depuis que nous sommes rencontrés.
Ah oui, bon. Alors Nicolas Caro, bonjour quand même. Vous êtes notre expert littérature. Et ce matin, Nicolas, vous êtes colère.
Ben oui, ça m'agace parce que ça recommence.
Voilà,
ça
y est. Mec. Ah mon Dieu.
Le site Actualité, avec deux T, site d'information littéraire, m'apprend qu'au New Jersey, aux États-Unis, deux élus ont déposé une résolution qui vise à faire retirer des programmes scolaires l'un des monuments littéraires américains, les aventures de Huckleberry Finn.
Huckleberry Finn, c'est le copain de Tom Sawyer.
C'est ça, des histoires écrites par Mark Twain à la fin du 19e siècle, des grands classiques et des chefs-d'œuvre.
Et pourquoi veulent-ils les retirer des écoles ?
Mais parce qu'on peut y lire 200 fois le mot « nègre » et que donc c'est raciste. Alors que pas du tout. Au contraire, c'est une œuvre antiraciste. Mais effectivement, à l'époque, dans le contexte des États du Sud, on employait encore le mot « nègre », le « n-word », comme disent les Américains. Donc c'est le reflet d'une époque. C'en est même une critique acerbe bien de sûr. La part de Mark Twain. Mais pour ses élus, le simple fait de lire ce mot pourrait encourager des comportements racistes.
Ça me dit quelque chose cette histoire, c'était pas déjà arrivé ?
Si. Dans le Minnesota et en Pennsylvanie, notamment, le livre de Mark Twain n'est pas disponible dans certaines bibliothèques. Le livre d'Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, un classique, avait lui aussi subi des censures pour les mêmes raisons.
Mais ils pensent vraiment que ces livres sont racistes ?
Mais même pas, ils savent leur valeur littéraire, ils savent que c'est pas raciste, ou en tout cas ils disent le savoir, mais ils considèrent qu'il vaut mieux utiliser d'autres livres, sans ce genre de termes pour apprendre la littérature aux enfants. On a envie de leur dire que les profs se débrouilleront très bien pour recontextualiser les œuvres, et que c'est justement ça aussi la littérature,
oui, ça peut faire débat dans la salle
le
de
reflet
classe,
d'une époque, ensuite. Le langage évidemment d'une époque, c'est délirant. Bientôt on interdira les trois mousquetaires parce qu'il n'y a pas la parité dans les personnages.
C'est exactement ça.
C'était le coup de gueule de Nicolas Caro. Merci beaucoup Nicolas. À vos côtés, il est jeune, un peu fluet.
Les commerçants l'appellent mademoiselle.
Peut-être, mais il est extrêmement compétent dans son domaine. Les nouvelles technologies, Clément Le Saffre, bonjour. C'était très attendu et cette fois c'est la bonne. Apple se lance dans le streaming vidéo.
Et oui, après Amazon, c'est un autre géant du numérique qui va tenter de concurrencer l'indétrônable Netflix. Alors après plusieurs mois de spéculation, Apple a levé le voile hier sur Apple TV Plus, son service de vidéo à la demande, et la firme à la pomme est ambitieuse.
Mais alors, que prévoit Apple pour s'imposer face à Netflix ? Et surtout, vous allez m'expliquer un truc, parce que moi, j'ai Apple TV depuis 5 ans. C'est quoi la différence avec Apple TV ?
C'est, on va dire, une mise à jour, une mise à niveau avec beaucoup plus de choses, parce que concrètement, tout ça a été repensé quasiment de A à Z, et vous aurez notamment des créations originales Apple, ce qu'il n'y avait pas aujourd'hui. Apple a mis en fait le paquet pour développer des séries et des films capables de rivaliser en qualité, alors ça c'est l'ambition, avec ceux de Netflix, d'Amazon, HBO, Hulu, etc. À peu près $1 milliard sur la table, alors c'est beaucoup moins que Netflix aujourd'hui, c'est 7 fois moins, mais c'est un début. Et preuve à l'appui hier soir avec un défilé de stars qui sont venus vendre leurs œuvres labellisées Apple. Il y aura Steven Spielberg qui va relancer ses histoires fantastiques, Jennifer Aniston et Steve Carell qui vont jouer dans une série sur l'envers des talk shows, ou encore Oprah Winfrey qui va créer une émission de A à Z. Bref, il y a des noms maintenant, on va voir si ça va marcher.
Et pourquoi Apple se lance dans la bataille du streaming aussi tard? Ils sont presque à contre-temps.
Eh bien, parce qu'en fait, c'est un marché en pleine expansion. Apple veut sa petite part d'un gros gâteau. Et il faut savoir que c'est aussi une question financière, puisque l'iPhone, qui est la poule aux œufs d'or d'Apple depuis 10 ans, même plus maintenant, connaît quelques difficultés. Le marché des téléphones est saturé. Tout le monde en a un aujourd'hui, donc forcément, les ventes stagnent. Et pour compenser ces vents contraires, eh bien, Apple mise tout sur les services. Apple Music, Apple Pay, iCloud lui ont rapporté quelques $40 milliards l'an dernier, c'est monstrueux. Et d'ailleurs, hier, il n'y a eu aucune présentation de produits à la conférence d'Apple. C'est inédit pour un événement de cette envergure. À la place, Apple a présenté tout un tas de nouveaux abonnements, en plus d'Apple TV+. On a eu droit à un kiosque numérique, à un service de jeux vidéo en streaming, et même à une carte de crédit physique. Tout cela va arriver chez nous dans les mois à venir, on aura l'occasion d'en reparler.
Apple va devenir une banque.
Vous
nous en parlerez dans une prochaine chronique.
Tout à fait, allez, teasing.
Moi j'ai du mal à y croire avec l'histoire avec Netflix.
Oh non, ma bonne dame, et avec tous ces Spoutnik qui nous envoient dans les nuages,
Mais pardon, mais 1 milliard contre 7 milliards, quand sachant que Netflix a déjà un catalogue énorme, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais s'ils ont Steven Spielberg, s'ils ont des grands noms comme Steve Carell,
les Françaises qui s'associent pour lutter contre Netflix, ça c'est flippant pour Netflix.
Salto, ça s'appelle Salto.
Merci beaucoup Clément. Eva Rock.
Je suis très contente de vous parler d'une nouvelle web-série documentaire sur YouTube qui s'appelle Carnet de solidarité. Le premier épisode vient d'être posté, il est réalisé par la journaliste Julia Montfort. Pendant plus d'un an, avec son ami, avec son mari Cédric, ils ont accueilli chez eux Abdelhak, c'est un jeune homme venu du Tchad, âgé de 22 ans, sans papier, et passé les premières heures d'appréhension, Julia Montfort a décidé de filmer cette aventure. Cet épisode 1 revient sur l'arrivée d'Abdelhak, ses difficultés à raconter ce qu'il a subi au Tchad puis en Libye, cette angoisse qui le ronge sans nouvelles de sa famille, la peur d'être attrapé par la police aussi. Julia et son mari, eux aussi, étaient condamnables.
Avec Cédric, nous prenons la décision de l'accueillir sans mettre de date de fin à cette cohabitation. Tant pis s'il faut agir contre la loi. À ce moment-là, nous risquons 5 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour l'hébergement d'un sans-papier. Nous n'hésitons pas une seconde à entrer en désobéissance.
Alors entre-temps, la loi a été changée et les gens qui accueillent des personnes sans papier ne sont plus condamnables. Mais autour de Julia, vous le verrez, et autour de Cédric et d'Abdelhak, s'est créé un réseau de solidarité. Julia Montfort, elle a découvert ces citoyens qui ont également tendu la main à un réfugié. D'où l'idée de ce documentaire pour comprendre aussi les ressorts et les freins de l'empathie. C'est un récit très personnel qui prend rapidement une valeur universelle. Julia, elle filme tous les bons comme les mauvais moments. Elle ne cache pas les difficultés et offre en fait un récit sincère et émouvant. Ce premier épisode a vu le jour grâce à un financement participatif et ce sera le cas pour la suite. C'est sur YouTube, vous tapez Julia Montfort et vous allez tomber dessus tout de suite et vous allez découvrir donc ces carnets de solidarité. Sincèrement, allez-y, c'est absolument à voir.
Un beau projet qui pourra peut-être, espérons-le, émouvoir même Nicolas Carreau,
qui a passé tout le sujet à rigoler avec la régie.
Je ne sais pas ce qu'il leur racontait, en tout cas voilà un cœur de pierre à côté de nous. Merci Eva Rock, merci à toute l'équipe des bons tuyaux qui se reformera demain. Céline, une info en plus.
Les enfants adorent le camping.
Merci.
Europe 1. Il est 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h02.
Céline Kalman.
Céline Kalman.
Il est 5h58, Mathieu Noël.
Les Français ont le droit de savoir, Céline, quel temps fait-il aujourd'hui?
Mais ils encore, vont pas être déçus.
Encore de la fraîcheur.
Oui,
on n'y arrive pas.
Ça baisse encore un petit peu.
On croit que le printemps est là, mais il se refuse à nous.
Oui, c'est vrai, avec une moyenne de 2 à 9 degrés ce matin. Et ma voix.
Voilà la preuve. La preuve que l'hiver est
là. Ça y est, je suis là. Je suis revenue.
Vous tous.
6 degrés à Paris ce matin, 9 à Nîmes. Ça grimpe quand même jusqu'à 14 degrés du côté de Toulon. Cet après-midi, ce sera sensiblement la même chose qu'hier, avec peut-être 1 ou 2 degrés en moins. La moyenne ira de 9 à 13 degrés sur la moitié nord, 13 à 17 sur la moitié sud. Ça va grimper quand même jusqu'à 19 degrés pour la maximale du côté de Montpellier.
Et côté ciel?
Bien, ce matin, c'est bien nuageux, des Ardennes au Grand Est, en Bourgogne, et puis en descendant jusqu'au nord de l'Auvergne. Le tout accompagné parfois de brouillard. Des brouillards qu'on peut retrouver également sur sur la région centre, l'Île-de-France ou encore la pointe nord, puisque ça peut déborder un petit peu. Sur tout l'ouest et plus au sud, ce sera déjà ensoleillé ce matin. Cet après-midi, ça va s'arranger. Hein. Les éclaircies vont revenir également sur la partie nord du pays. On aura du vent, vent bien frais, qui sera très présent, notamment dans la vallée du Rhône, près de la Méditerranée et sur les caps corses, 110 km à l'heure en rafale. Cap Corse, où le temps va être très agité, d'ailleurs sur toute la Corse aujourd'hui, avec de la pluie, de la neige sur les sommets des 800 mètres d'altitude.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.